2 sous les yeux. C'est ce texte-là qu'on va étudier ensemble, qu'on va méditer ensemble. Comme Steve l'a dit, on est en train de parcourir ce livre de 1 Jean et on veut encore ce matin voir ce que Dieu veut nous enseigner au travers de ces versets qu'il nous a transmis pour nous aujourd'hui. Et avant d'aller plus loin, avant de méditer ces versets, je vous invite à prier pour demander l'aide de Dieu pour comprendre sa parole. Prions. Oui, notre Dieu, nous te remercions parce que Jésus nous a tant aimés. Nous te remercions parce que c'est pour nous qu'il a été crucifié, c'est pour nous qu'il est ressuscité, c'est pour nous qu'il a été glorifié. On te remercie, notre Dieu, pour ces vérités si simples mais si profondes. Et on te prie qu'encore aujourd'hui, alors que l'on écoute ta parole, ces vérités puissent nourrir notre âme et nous amener à aimer Jésus davantage. C'est dans le nom de Jésus qu'on prie ces choses. Amen. À quoi ça ressemble de vivre dans la dernière heure ? À quoi ça ressemble de vivre dans la dernière heure ? Jean écrit à ses lecteurs, on l'a vu au verset 18, qu'il vivait dans la dernière heure. Il dit « Jeunes enfants, c'est l'heure dernière ». À l'époque où Jean écrit, c'est la dernière heure. Ou ce que la Bible appelle ailleurs, les derniers jours. Une période qui est marquée, comme on le voit dans notre passage ici, par beaucoup d'opposition à Jésus. Des gens qui enseignent des choses fausses. Mais c'est aussi dans cette période-là qu'on vit, nous, aujourd'hui. Contrairement à ce qu'on peut penser parfois, la dernière heure, les derniers jours, ce n'est pas juste une petite période avant que Jésus revienne, mais plutôt c'est toute la période depuis la résurrection de Jésus jusqu'à son retour. Toute la période depuis la résurrection de Jésus jusqu'à son retour. C'est la période où il ne reste, comme on le dit parfois, plus qu'un événement dans le calendrier de Dieu. Il ne reste plus qu'un événement dans le calendrier de Dieu, le retour de Jésus comme juge et comme roi. C'est ça la dernière heure de la grande histoire de Dieu, la dernière étape dans son plan. Et donc, il y a 2000 ans, ces lecteurs de 1 Jean, ils vivaient dans la dernière heure. Et nous, aujourd'hui, à Bruxelles, en 2024, on vit aussi dans la dernière heure. À quoi ça ressemble de vivre dans la dernière heure ? Il y a des faux enseignants qui grouillent un peu partout autour de nous, sur Internet, sur YouTube, dans nos librairies, dans nos églises, des gens qui enseignent des choses fausses par rapport à Jésus, en se laissant contrôler par ce qu'ils pensent être vrai, plutôt que par la vérité révélée par Dieu. En plus de ça, il faut ajouter les difficultés à vivre en tant que chrétien dans ce monde, les tentations, la lutte contre le péché, les défis d'être chrétien au travail, les hauts et les bas de la vie chrétienne. Et en plus de ça, en plus de tout ça, on doit ajouter certains doutes personnels par rapport à ma foi, par rapport à mon assurance chrétienne. Qu'est-ce qui me dit que je vais tenir bon ? Qu'est-ce qui me dit que je suis dans la lumière et pas dans les ténèbres, comme on le voit dans 1 Jean ? Alors comment vivre en tant que chrétien dans la dernière heure ? Comment tenir bon jusqu'au retour de Jésus ? C'est à ça que notre passage répond. Il y a deux choses que notre passage met en avant, vous avez le plan dans le feuillet, deux choses qu'on va voir ensemble. La première, n'aimez pas le monde, vous avez bien mieux. N'aimez pas le monde, vous avez bien mieux. Parfois, on a besoin d'être rappelé de vérités qui sont essentielles, pas vrai ? Quand on prend le train ou l'avion à la fin, ils nous disent, avant de sortir, n'oubliez pas vos affaires dans le train. On écoute, on se dit, c'est évident quand même, pourquoi ils ont besoin de rappeler ça ? Ah tiens, j'ai oublié ma sacoche. On a besoin d'être rappelé de vérités qui sont essentielles. C'est un peu ça qu'on voit ici dans les premiers versets, les versets 12 à 14. Jean rappelle à ses lecteurs des vérités qui sont essentielles. Il commence en s'adressant au verset 12 à ceux qu'il appelle « petits-enfants ». Ou au verset 14, c'est les mêmes personnes, « jeunes enfants ». Ici, il ne parle pas de ceux qui sont enfants en termes d'âge, mais c'est plutôt le mot qu'il utilise, le terme qu'il utilise dans toute sa lettre pour parler de tous ses lecteurs. On le voit justement au verset 18, « jeunes enfants, c'est l'heure dernière ». Ou un peu plus loin également dans cette lettre, verset 28, « Et maintenant, petits-enfants, demeurez en lui. » Donc il parle de ses lecteurs comme des jeunes enfants, comme des petits-enfants, un moyen de désigner tous ses lecteurs. Il rappelle à tous, donc, en premier, des vérités fondamentales. Qu'est-ce qu'il leur rappelle ? Verset 12, « Je vous écris, petits-enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. » Qu'est-ce qu'il y a de meilleur que ça ? Que de savoir que nos péchés sont pardonnés. Que d'être rappelé que Dieu a totalement oublié, totalement mis de côté nos offenses envers lui. C'est la chose la plus précieuse au monde. De savoir que tout le mal que l'on a fait, tout le mal qui nous condamnait éternellement en enfer sous la colère de Dieu, le mal qu'on ne pouvait rien faire pour enlever, ce mal a été pardonné. Ce mal a été effacé. Il n'y a rien de plus merveilleux que ça, et c'est pour ça qu'on veut annoncer cet évangile, cette bonne nouvelle dans le monde entier, comme Céline, même parmi des peuples qui n'ont jamais entendu parler de cet évangile, pour que eux aussi aient le pardon des péchés. Et si nos péchés sont pardonnés, ce texte nous dit, c'est à cause de son nom, à cause du nom de Jésus. Ce n'est pas à cause de nos efforts, ce n'est pas à cause de nos performances spirituelles d'hier, ce n'est pas à cause de nos capacité pour continuer à plaire à Dieu aujourd'hui, c'est pas à cause de ce que l'on ressent ce matin envers Dieu, c'est pas à cause de ce qu'on va faire aujourd'hui pour plaire à Dieu, non, ces choses n'ont rien à voir là-dedans. Ces choses ne peuvent pas pardonner le moindre des péchés. Si nos péchés ont été pardonnés, s'ils sont toujours pardonnés aujourd'hui et s'ils seront toujours pardonnés dans le futur, c'est uniquement à cause du nom de Jésus, à cause de son nom. C'est ce qu'on a vu dans 1 Jean. Parce que le sang de Jésus, la mort de Jésus, à notre place sur la croix pour prendre la colère de Dieu, son sang nous purifie de tout péché. Quelle merveille, n'est-ce pas? Mais Jean veut aussi rappeler autre chose à tous ses lecteurs. Un peu plus loin, au verset 14, il s'adresse à nouveau à tout le monde. Et voilà ce qu'il dit. « Je vous écris, jeunes enfants, parce que vous avez connu le Père. » C'est pas seulement que nous avons reçu le pardon de toutes nos fautes, c'est pas seulement qu'on est juste devant Dieu, mais c'est aussi qu'on le connaît, lui, comme notre Père. On a cette relation personnelle et vivante avec le Dieu de l'univers. Peut-être qu'on demande aux gens autour de nous, mais qui est Dieu? Ils pensent à Dieu comme quelqu'un d'austère, quelqu'un de distant, quelqu'un de froid, d'indifférent. Mais selon la Bible, pour les croyants, Dieu est le Père qui pardonne nos péchés. Voilà ce qui est vrai pour chacun de nous en tant que chrétiens. Voilà ce que Jean veut rappeler à ses lecteurs pour qu'ils ne doutent pas. Mais ensuite, Jean va mettre l'emphase sur certaines vérités en s'adressant à deux groupes de personnes, ceux qui sont plus âgés et ceux qui sont plus jeunes. Il s'adresse d'abord au Père, au verset 13, et à nouveau au verset 14, en répétant la même chose. Si on regarde le début du verset 13, « Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. » Il ne parle pas ici juste à ceux qui sont pères, mais à tous ceux qui sont plus âgés, qu'ils soient hommes ou femmes, ou on pourrait dire aujourd'hui, ils s'adressent au Seigneur, et leur rappelle qu'ils connaissent celui qui est dès le commencement. Alors, ce n'est pas facile de savoir si ça fait référence au Père ou au Fils, mais en tout cas, Jean dit à ces personnes qui sont avancées en âge, qu'ils ont connu Dieu à un moment donné, qu'ils connaissent toujours le même Dieu, et que ce Dieu, il existe de toute éternité. Même si leur foi prend de l'âge, dans un certain sens, le Dieu en quel ils ont cru n'a pas changé et il ne changera jamais. Et ensuite, Jean s'adresse à ceux qui sont plus jeunes. À la fin du verset 13 et également à la fin du verset 14, il dit une chose à la fin du verset 13 et la développe à la fin du verset 14. Voilà ce qu'il écrit. « Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. » Il dit que ces jeunes gens sont forts, mais il va décrire à quoi ressemble cette force. Il est question d'avoir la parole de Dieu qui demeure en eux, et que c'est ainsi qu'ils pourront vaincre le malin, résister aux pièges du diable, aux faux enseignements qui essayent de les détourner. Pour vous qui êtes jeunes, j'ai l'impression d'être un peu plus vieux en disant ça, mais je me permets de le dire, pour vous qui êtes jeunes, plus jeunes que moi en tout cas, vous êtes à une période clé de la vie, vous avez plus d'énergie, vous avez des choix importants face à vous. Vous avez plus de capacités intellectuelles, de possibilités d'apprendre, de développer vos compétences, vos convictions qui se forment. Et Satan vous veut dans son équipe. Satan vous veut dans son équipe. Que ce soit en vivant comme tous vos amis autour de vous, sans différence, ou que ce soit en essayant de vivre en tant que chrétien, mais en écoutant autour de vous toutes les choses qui se disent chrétiennes, mais qui enseignent des choses qui sont loin de ce que la Bible enseigne, loin de ce que la parole de Dieu enseigne. Ce n'est pas comme ça que vous pourrez tenir. Ce n'est pas comme ça que vous pourrez vaincre le diable. Ce n'est pas ça la vraie force. La vraie force, ce dont vous avez besoin, c'est que la parole de Dieu demeure en vous. C'est de baser vos convictions sur la Bible, de grandir dans votre connaissance de la Bible et de vivre en conséquence, de mettre l'énergie que vous avez aujourd'hui au service du Seigneur. Voilà ce qui compte vraiment. Je suis triste d'avoir vu tellement de jeunes qui avaient de la force, qui avaient du zèle, qui avaient de l'amour pour le Seigneur, mais sans aucune base, sans aucun fondement, sans s'attacher à la parole de Dieu. Et les conséquences sont désastreuses. Ou de voir des jeunes qui ont de la force, qui ont de l'amour pour le Seigneur, mais qui ne résistent pas au mal, qui deviennent peu à peu comme le monde qui les entoure et qui ne vivent plus avec sainteté. Alors Jean dit ceci pour rassurer ses lecteurs, parce qu'il dit que ces jeunes gens n'ont pas fait cela, ils ont vaincu le diable, ils ont laissé la parole de Dieu demeurer en eux. C'est un encouragement pour nous à faire la même chose. Alors pourquoi est-ce que Jean dit tout ceci? Oui, d'abord pour rassurer ses lecteurs. Il a parlé, si vous vous souvenez, la semaine dernière, dans le passage qu'on a vu la semaine dernière, des ténèbres et de la lumière, de comment savoir si on est dans les ténèbres, comment savoir si on est dans la lumière. Et Jean ne veut pas que ses lecteurs doutent. Il n'écrit pas ces choses parce que ses lecteurs sont dans les ténèbres, au contraire. Il leur écrit parce qu'ils sont du bon côté, ils sont dans la lumière. Mais ce que Jean dit aussi dans ses versets 12 à 14, prépare un peu le terrain pour ce qui vient maintenant. Un appel à ne pas aimer le monde. Parce qu'à la lumière de tout ce qu'on a en tant que chrétien, ça ne sert à rien d'aimer le monde. On a bien mieux. Voilà ce que Jean dit au verset 15, voilà ce qu'il demande. « N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. » On ne peut pas avoir les deux. Ce verset nous dit qu'il faut choisir entre l'amour du monde et l'amour du Père, c'est-à-dire l'amour envers Dieu. Si on aime le monde, c'est la preuve qu'on n'aime pas Dieu. Les deux ne sont pas compatibles. Alors qu'est-ce que ça veut dire de ne pas aimer le monde? C'est ça la question, n'est-ce pas? Quelles sont les choses qui sont dans le monde? Quand Jean parle du monde ici, il a en tête le monde corrompu, le monde mauvais, le monde rebelle contre Dieu. Et il explique ça dans le verset suivant. Quelles sont ces choses du monde? Il dit, verset 16, « Car tout ce qui est dans le monde, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est? La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais vient du monde. » Quand on pense aux choses du monde, on peut peut-être facilement penser à des choses physiques, des choses matérielles. Mais ici, il s'agit plutôt de désirs, d'attitudes, d'affections qui sont mal placées. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Ces choses ne viennent pas du Père, de Dieu, mais elles viennent plutôt du monde. Les choses physiques, matérielles, elles viennent de Dieu. C'est Dieu le Créateur. Ce n'est pas ça qu'on est appelé à rejeter. Et là, on doit résister à une mauvaise compréhension de la vie chrétienne qui pense que se priver des plaisirs de la vie est plus spirituel. Non, le plaisir et la joie viennent de Dieu lorsqu'ils sont légitimes. Le plaisir des oreilles, le plaisir des yeux, le plaisir des saveurs ne sont pas mauvais en eux-mêmes tant que ce ne sont pas des choses qui sont immorales. Ce sont au contraire des cadeaux d'un Dieu généreux dont on est appelé à profiter. Je suis toujours surpris d'entendre des chrétiens qui disent qu'il ne faut pas écouter de musique non chrétienne, qu'il ne faut pas regarder de films, comme si c'était plus spirituel d'être séparé de ces choses. Mais faire ça, c'est créer une distinction entre les choses matérielles et les choses spirituelles, comme si l'un était forcément mauvais et l'autre était bon. Et faire cela, c'est en fait être plus proche des faux enseignants de cette lettre, qui disaient que tout ce qui était matériel était mauvais. Alors bien sûr, certaines choses sont immorales et n'honorent pas Dieu, il faut regarder le contenu. Mais il y a plein de choses qui sont faites par des gens qui ne connaissent pas Dieu et dont on peut profiter pour la gloire de Dieu. Oui, de la musique et des films, mais aussi le restaurant dans lequel vous aimez manger, ce bâtiment dans lequel on se réunit, le médecin que vous allez consulter, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est pas ça que le chrétien est appelé à rejeter. C'est pas ça que ça veut dire de ne pas aimer le monde. Plutôt, ce que le chrétien doit rejeter, ce sont les désirs, les affections, les attitudes qui s'oppose à Dieu. La convoitise de la chair, c'est-à-dire ces désirs mauvais, pécheurs en nous, le cœur qui désire quelque chose que Dieu a interdit ou qui désire des choses légitimes, mais de la mauvaise manière, avec idolâtrie. La convoitise des yeux, de toujours vouloir plus, juger les choses en fonction de ce à quoi elles ressemblent plutôt que ce qu'elles sont réellement. se laisser orienter par l'attrait de ce que l'on voit, et l'orgueil de la vie. Probablement ici, l'orgueil dans les possessions de la vie, mettre sa confiance dans les choses matérielles plutôt qu'en Dieu. C'est une bonne chose d'avoir un travail et d'avoir une carrière, mais le monde transforme ça en moyen de définir son identité, plus important même que la famille, comme objectif suprême pour la vie. Le monde encourage la lutte de pouvoir, le fait de mettre ses intérêts avant ceux des autres, ou de tout décider en fonction du salaire que ça va nous apporter. Ces choses ne viennent pas de Dieu, mais viennent du monde. C'est une bonne chose d'avoir des biens matériels, une maison, un toit, de la nourriture, des vacances, mais le monde transforme ça en une lutte effrénée pour avoir le plus possible sans jamais être satisfait, en oubliant la générosité envers les autres, en oubliant d'utiliser notre argent pour la gloire de Dieu, pour le bien de l'Église, pour le progrès de l'Évangile dans le monde. Le monde dit que ce sont tes possessions qui font ta valeur et t'encourage à toujours vouloir plus. Ces choses ne viennent pas de Dieu, mais viennent du monde. C'est une bonne chose de profiter de la sexualité que Dieu a créée dans le cadre pour lequel il l'a créée, le mariage. Mais le monde a sorti la sexualité du cadre voulu par Dieu et nous encourage à vivre la sexualité sans limite, que ce soit en actes, en pensée, dans nos regards. Ces choses ne viennent pas de Dieu, mais viennent du monde. On doit résister à ces choses. Le chrétien doit garder son cœur et avoir un cœur qui est orienté différemment. On n'est pas appelé à sortir de ce monde, on vit dans ce monde, mais le chrétien devrait sentir qu'il vit à contre-courant et que son cœur est orienté dans une autre direction. Et la raison pour laquelle il faut rejeter ces choses, c'est non seulement parce que ce n'est pas compatible avec l'amour envers Dieu, mais c'est aussi parce que ces choses sont éphémères. On le voit avec le verset 17, voilà ce qui est dit. « Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Le monde et sa convoitise passent. Ce qui était à la mode, ce qui était au sommet de la satisfaction il y a un siècle, ne vaut plus rien aujourd'hui. On n'en voudrait même pas, ça n'a aucune valeur. Ça passe tellement vite et ça ne satisfait pas. On veut certaines choses, on désire certaines choses de toutes nos forces, on a l'impression que ça va nous combler. Et puis c'est décevant, c'est un plaisir qui est éphémère. C'est comme remplir une passoire avec de l'eau, ça ne marchera jamais. Peut-être qu'il y a déjà quelque chose que vous avez voulu plus que tout, que ce soit un nouveau téléphone, un nouvel ordinateur, une nouvelle maison, une nouvelle voiture, et qui sent, ouais, ça va être vraiment génial, ça va vraiment nous apporter du bien, du bonheur, ça va me satisfaire. Puis au bout de quelques semaines, au bout de quelques mois, quand la prochaine voiture ou le prochain iPhone est sorti, ça a beaucoup moins de valeur. C'est passé. Ou alors on pense peut-être aux stars du passé, qui étaient au top de la gloire, au top de la beauté, au top de la jeunesse, qui sont maintenant oubliées, plus aussi belles et plus aussi connues. Le monde passe et sa convoitise aussi. Dans ce monde, il y a plein de choses qui réclament notre attention, nos affections, notre cœur. Qu'est-ce qu'on va aimer plus que tout ? Vers quoi notre cœur sera dirigé avant tout ? Vers les vérités qu'on a vues juste avant ? Nos péchés sont pardonnés, Dieu est notre Père. Gardons ça en tête pour réaliser que l'amour pour Dieu, c'est ce qui compte le plus. Personne ne peut nous enlever ça. Il est dit, verset 17, que celui qui fait la volonté de Dieu, celui qui aime Dieu de cette manière-là, demeure éternellement. C'est stable, c'est sûr, c'est un avenir éternel, c'est bien mieux. Alors n'aimez pas le monde, vous avez bien mieux. Mais deuxièmement, ce que Jean dit à ses lecteurs pour les aider dans cette dernière heure, c'est la chose suivante. Ne les écoutez pas, ils veulent vous égarer. Ne les écoutez pas, ils veulent vous égarer. Alors, qui sont ces « ils » Qui sont ces personnes? On a la réponse au verset 18. C'est ce que Jean appelle les antichrists. Jeunes enfants, c'est l'heure dernière. Comme vous avez entendu qu'un antichrist venait, voici qu'il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous reconnaissons que c'est l'heure dernière. Alors, il y a beaucoup de bruit autour de l'antichrist. On a envie de savoir, ça nous intrigue. C'est facile de faire des vues avec ça, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas là-dessus que Jean attire notre attention, ici, dans ce texte. Il attire notre attention plutôt sur les antichrists, au pluriel. Il dit, il y en a plein, et c'est ça la preuve que c'est la dernière heure qu'on est dans ce dernier moment du calendrier de Dieu. Les antichrists, ce sont des gens qui s'opposent à Jésus, qui enseignent des choses fausses, comme on va le voir, par rapport à Jésus. On apprend avec le verset 19 que ce sont des gens qui faisaient partie de la communauté, qui se disaient chrétiens. Et puis, ils ont essayé de troubler d'autres, on le voit au verset 26, qui ont essayé d'égarer d'autres par un faux enseignement. Probablement, ces gens venaient en disant qu'ils allaient enseigner ces chrétiens, leur apporter la vraie onction, leur apporter la vraie connaissance. Mais ils enseignaient des messages qui étaient loin de la vérité. Jean écrit donc pour mettre en garde ses lecteurs. Ne les écoutez pas. Il leur dit en fait, mais vous n'avez pas besoin d'eux. Ils n'ont rien à vous enseigner. Ils n'ont rien à vous apporter parce que vous avez déjà reçu le vrai enseignement. Alors qu'est-ce que ces antichrists enseignaient? On voit avec le verset 22 et 23 la réponse. Voilà ce qu'il est dit. Qui est le menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'antichrist qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Celui qui confesse le Fils a aussi le Père. Ces personnes-là étaient à côté de la plaque par rapport à Jésus. Ils refusaient de reconnaître que Jésus est le Christ. Ce n'est pas qu'ils refusaient de reconnaître que Jésus est le Messie promis dans l'Ancien Testament, ça c'est vrai, amen, mais c'est plutôt qu'ils refusaient de reconnaître que Jésus est le Fils éternel de Dieu. Ils refusaient de reconnaître que Jésus et le Fils ne sont pas deux personnes séparées, mais une seule personne. C'est ça la vérité qu'ils reniaient. Je lis juste un peu plus loin dans la lettre, chapitre 4, verset 2, voilà ce que Jean écrit. 1 Jean 4, 2, « Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antichrist, dont vous avez appris qu'il vient et qui maintenant est déjà dans le monde. » Comme on l'avait vu, je pense dans la première prédication, ces faux enseignants probablement remettaient en cause l'incarnation que Jésus était venu en chair. Et ça nous aide à comprendre à quel point c'est grave d'être à côté de la plaque par rapport à Jésus. Parce qu'en reniant qui était Jésus, certains aspects de qui était Jésus, ils étaient des antichrists, des gens qui s'opposaient à Jésus, des gens qui étaient contre Jésus. Peut-être que quand on pense à des gens qui sont contre Jésus ou des antichrists, on pense peut-être à des gens qui rejettent ouvertement Jésus, qui l'insultent explicitement, qui le blasphèment explicitement. Mais ici, il s'agit de gens qui parlaient de Jésus, mais de la mauvaise manière, en enlevant des facettes de qui Jésus est. Et en faisant ça, ils étaient contre Christ. Ils étaient dans l'autre camp. Ça nous aide à comprendre à quel point cette lettre de 1 Jean est pertinente pour nous aujourd'hui. On se dit peut-être, renier que l'incarnation a eu lieu, c'est vraiment pas mon danger, il n'y a pas de souci. C'est pas le danger de ceux que je vois autour de moi, pas de souci. Peut-être pas le sujet le plus attaqué aujourd'hui, c'est vrai, mais on doit réaliser que l'erreur doctrinale, et en particulier l'erreur par rapport à qui est Jésus, est sérieuse et importante. Il ne suffit pas de parler de Jésus, mais il faut parler de Jésus de la bonne manière. Il faut enseigner la vérité par rapport à Jésus. Même des courants qui se disent chrétiens peuvent se tromper. C'est le cas de ces antichrists, on voit verset 19, ils faisaient partie de la communauté, ils viennent de l'intérieur. Et je crois qu'on est peut-être souvent trop naïf en tant que chrétien, en pensant que le danger viendra de l'extérieur, de la part de ceux qui ne se disent pas chrétiens. On doit réaliser qu'il y a un danger qui vient de l'intérieur, de la part de ceux qui se disent chrétiens, qui disent parler de Jésus, mais qui le font pour nous égarer, pour nous amener à renier des vérités importantes par rapport à Jésus. Ça existait dans le passé et ça existe encore aujourd'hui. Et donc ces versets nous donnent dans un sens un test de base pour évaluer tout enseignement, toute personne qui se dit chrétienne. Qui est Jésus? Qui est Jésus? C'est ça la question fondamentale qui définit tout. Quand on écoute un prédicateur, quand on décide de rejoindre une église, quand on lit un article en ligne, qu'on regarde une vidéo sur YouTube, il faut se demander comment est-ce qu'il présente Jésus? Est-ce que c'est fidèle à la manière dont la Bible présente Jésus? Il ne faut pas juste se demander « est-ce qu'il parle de Jésus ?» mais plutôt « de quel Jésus est-ce qu'il parle ? » Est-ce que c'est le Jésus que la Bible présente ? Est-ce que c'est le vrai Jésus, le Fils éternel de Dieu, venu en chair dans ce monde pour payer pour nos péchés et pour nous donner la vie éternelle? Ou est-ce que c'est un Jésus inventé par les hommes, qui existe pour mon confort personnel, pour mon développement personnel, pour ma guérison, pour ma prospérité? C'est ça la question fondamentale. Et c'est important parce que, en perdant certaines choses par rapport à Jésus, on perd tout. C'est ce que le verset 23 nous dit. « Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Celui qui confesse le Fils a aussi le Père. » Renier Jésus, ne pas avoir Jésus tel que la Bible le présente, c'est renier le Père. C'est se priver de Dieu lui-même. Beaucoup pensent aujourd'hui qu'on peut avoir accès à Dieu au travers de la spiritualité, au travers de l'ambiance, au travers de ressentis, au travers de l'architecture d'une belle église, au travers de la musique d'un culte. C'est comme ça qu'on peut entrer dans la présence de Dieu. Mais si Jésus n'est pas là, Dieu n'est pas là non plus. Si on n'a pas le Fils, alors on n'a pas le Père. Sans Jésus, on est séparé de Dieu et toujours sous la condamnation pour nos péchés, pour l'éternité. Le seul moyen d'avoir accès à Dieu, le seul moyen d'être réconcilié avec le Père, c'est au travers du Fils. C'est ce que Jésus lui-même a dit. On connaît ce verset de Jean 14, verset 6. Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jésus est le seul chemin pour accéder à Dieu, parce qu'il est le seul qui a pu payer pour nos péchés par sa mort sur la croix. Alors qu'il prend la condamnation pour tous ceux qui croiraient en lui, alors qu'on place notre confiance en lui, on est réellement pardonné, comme on l'a vu, on a réellement le pardon de nos péchés, on a réellement accès à Dieu, on a le Père, parce qu'on a le Fils. Et donc ça veut dire que l'accès à Dieu ne se fait pas au travers d'une ambiance, au travers de ressentis, au travers d'un bâtiment, ou même au travers de soi-disant miracles. L'accès à Dieu se fait au travers d'une personne, d'un message dans lequel on croit. Jésus, le Fils éternel de Dieu, venu dans ce monde pour nous racheter. Si on n'a pas cette personne, si on n'a pas Jésus, on est privé du Père, privé de Dieu, peu importe les sentiments qu'on ressent. Et donc, l'implication de ça, ça veut dire que la religion, la spiritualité, sans Jésus, n'a aucune valeur devant Dieu, ne nous apporte rien par rapport à Dieu. S'il n'y a pas Jésus, il n'y a pas le Père non plus. Ça a beau parler de Dieu, ça a beau avoir l'air religieux, mais si ce n'est pas juste par rapport à Jésus, ce n'est pas différent au final de l'athéisme qui rejette Dieu. On entend parfois des gens qui ont un discours religieux, qui parlent de Dieu, mais qui rejettent Jésus, ou alors qui rejettent certains aspects fondamentaux de ce que la Bible enseigne sur Jésus. Et c'est tentant pour nous de penser que, bah, parce qu'ils parlent de Dieu, parce qu'ils reconnaissent l'existence de Dieu, alors ils sont un peu plus proches de Dieu que nos amis athées qui rejettent l'existence de Dieu. Mais si on prend en compte ce verset 23, alors il n'y a aucune différence entre les deux. Entre ceux qui rejettent explicitement Dieu et ceux qui reconnaissent l'existence de Dieu en rejetant Jésus ou en reniant des vérités fondamentales par rapport à Jésus. Peu importe à quel point ils parlent de Dieu, les deux sont privés du Père, privés du salut, parce qu'ils n'ont pas le Fils. Vous avez peut-être entendu que le pape François était à Singapour il y a quelques jours, et voilà ce qu'il a dit dans le cadre d'un de ses discours interreligieux. Je cite... Toutes les religions sont un chemin vers Dieu. Elles sont comme des langages différents pour arriver à Dieu. Mais Dieu est Dieu pour tous. Il n'y a qu'un seul Dieu, et chacun d'entre nous a un langage pour arriver à Dieu. Certains sont sikhs, musulmans, hindous, chrétiens, et ce sont des chemins différents vers Dieu. Lorsque le pape dit ceci, il rejette Jésus, qui, comme on l'a dit, comme on l'a vu, comme la Bible enseigne, est le seul chemin pour accéder à Dieu, le seul moyen d'accéder au Père. Et donc, même si ça a l'air religieux, ce que le pape dit ici n'a rien de bien différent de l'athéisme, au final. Privé du Père, parce qu'il n'y a pas le Fils. En se privant de Jésus, on renie la foi chrétienne tout entière, et on se prive de Dieu. On doit réaliser que c'est la même chose avec l'islam. J'ai beaucoup de joie à parler avec mes amis musulmans, et on a l'impression d'avoir beaucoup de choses en commun. Mais il ne faudrait pas se tromper. Si l'on parle de Dieu, si l'on parle même d'un Dieu créateur, si l'on parle même de péché, mais qu'on ne reconnaît pas Jésus comme le Sauveur, Dieu venu en chair, alors on n'a pas Dieu non plus. On est privé de Dieu. Et c'est pour ces raisons-là que la doctrine, la théologie, ce n'est pas inutile, mais c'est important. Parce que notre réponse, notre manière de répondre à certaines questions de doctrine, à certaines questions de théologie, marque la différence entre le paradis et l'enfer. C'est important. C'est pour cette raison-là que, dans cette Église, on dit régulièrement ces choses, on avertit régulièrement contre ces choses, et même, parfois, oui, contre des gens qui enseignent des choses différentes. Pourquoi ? Parce que notre âme est en jeu. Votre âme est en jeu. Notre avenir éternel dépend de la réponse à ces questions. Voilà ce que ces faux enseignants perdent, et voilà ce qu'on perd, nous, en les écoutant. Alors, comment leur résister ? Jean met en avant deux choses dans la fin de ce passage pour aider ces chrétiens à résister aux faux enseignants. La première chose, c'est qu'ils doivent rester attachés au message qu'ils ont entendu depuis le tout début. Regardez ce qu'il dit au verset 21. « Je vous ai écrit, non parce que vous ne savez pas la vérité, mais parce que vous la savez, et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. » Et encore verset 24. « Pour vous, ce que vous avez entendu dès le commencement doit demeurer en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez, vous aussi, dans le Fils et dans le Père. » Depuis le tout début, ces chrétiens ont entendu le vrai message par rapport à Jésus, le message transmis par les apôtres eux-mêmes, le vrai évangile. C'est à ça qu'ils doivent rester attachés. C'est ce message qui doit demeurer en eux. C'est pour ça que Jean dit qu'il leur écrit, non pas parce qu'ils ne connaîtraient pas la vérité, non, ils la connaissent la vérité, ça leur a été enseigné. Ils connaissent la vérité, et c'est à ça qu'ils doivent rester attachés. La foi chrétienne, c'est un message ancien, et qui doit rester ancien, tel qu'il nous a été transmis. On ne doit pas innover, on ne doit pas le changer, on ne doit pas le modifier. Alors bien sûr que les temps changent et qu'on veut parler de ce message avec les mots d'aujourd'hui, pour que les gens d'aujourd'hui nous comprennent. Mais on doit réaliser que le message lui-même n'a pas changé. Ce message nous a été transmis par les apôtres eux-mêmes dans le Nouveau Testament. Et ainsi, on a aujourd'hui la Bible entière, les 66 livres de la Bible, qui sont la parole de Dieu, la vérité que Dieu a voulu révéler par rapport à lui-même aux êtres humains. Et donc, ce que la Bible enseigne est la même chose, que ce soit au 1er siècle, au 12e siècle, au 16e siècle, ou au XXIe siècle, que ce soit sur le péché de l'homme, sur la manière d'être sauvé, sur ce à quoi ressemble la vie chrétienne, sur l'Église, sur la sexualité, sur la moralité, c'est le même enseignement. Ça n'a pas changé et ça ne doit pas changer. Il faut rester attaché à cet enseignement. Voilà la première manière de résister, rester attaché au message qui a été transmis pour nous aujourd'hui, rester attaché à la parole. Deuxième manière de résister à ces antichrists, ces faux enseignants autour d'eux, se trouve au verset 20 et au verset 27. Voilà ce qui est dit le verset 20. « Vous-même, vous avez une onction de la part de celui qui est saint, et tous, vous avez la connaissance. » Et ensuite, verset 27, « Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, qu'elle est véritable et qu'elle n'est pas en mensonge, demeurez en lui comme elle vous l'a enseigné. » Il est question ici d'une onction qui permet de comprendre certaines choses, qui donne la connaissance. Cette onction, c'est l'onction du Saint-Esprit. Le fait de recevoir le Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité, lors de la conversion, lorsque l'on devient chrétien. L'Esprit habite dans le chrétien et c'est lui qui nous permet de comprendre les choses qui viennent de Dieu. Et donc, parce que ces chrétiens ont le Saint-Esprit, Jean leur dit, au verset 27, « Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. » Alors c'est facile de voir comment un tel verset pourrait être pris hors contexte, n'est-ce pas, et dire voilà qu'il faut plus d'enseignants, plus de prédications, juste moi et le Saint-Esprit. Mais ce n'est pas ce que Jean veut dire ici. Il est justement en train de leur écrire une lettre pour les enseigner de certaines choses, n'est-ce pas? Et le reste du Nouveau Testament montre l'importance d'être enseigné dans la parole. Mais ici, Jean fait référence à ces faux enseignants qui veulent venir donner un autre enseignement par rapport à Jésus. Jean leur dit, mais vous avez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui vous a montré la vérité par rapport à Jésus. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un d'autre vienne vous dire des choses bizarres par rapport à Jésus. Parce que vous avez déjà reçu le Saint-Esprit qui vous a montré la vérité par rapport à Jésus. N'écoutez pas ceux qui enseignent des choses contraires. Plutôt, vous connaissez la vérité. Demeurez dans cette vérité. Surtout que cette connaissance que les chrétiens ont, ce n'est pas une connaissance qui est secrète, qui est cachée. Il le dit au verset 20, « Vous avez une onction de la part de celui qui est saint, et tous vous avez la connaissance. » Pas juste certains, pas juste les plus privilégiés, mais tous vous avez la connaissance. Tous ces chrétiens ont l'onction du Saint-Esprit, chaque chrétien a le Saint-Esprit. Ce n'est pas un cadeau réservé à certains privilégiés, c'est donné par Dieu lors de la conversion. Et donc tous ont la connaissance. C'est l'une des promesses de l'Ancien Testament pour la Nouvelle Alliance, l'Alliance que Jésus est venu inaugurer, que tous connaîtront Dieu. Il n'y a pas de différence entre les chrétiens. Il n'y a pas de degré de spiritualité. Tous ont le Saint-Esprit et donc tous ont les yeux ouverts à la vérité par rapport à Dieu. Il n'y a pas de connaissance secrète. Il n'y a pas de connaissance cachée. Et donc, Jean dit cela pour dire à ces chrétiens, mais n'écoutez pas ces faux enseignants qui prétendent avoir une onction spéciale et qui veulent venir vous apporter un autre enseignement différent de ce que vous avez reçu. Non, vous avez tous cette onction. Vous avez tous le Saint-Esprit. Et il vous a tous montré la vérité. Restez attachés à cette vérité. Tout comme aujourd'hui, il ne faut pas écouter les pasteurs, les enseignants qui diraient avoir une onction spéciale, qui leur donnerait un statut privilégié, qui leur donnerait plus d'autorité. Non, la vraie onction dont la Bible parle, tous les chrétiens l'ont. Tous ont le Saint-Esprit. Et il ne faut pas non plus penser que cette onction, le fait d'avoir le Saint-Esprit, est séparée de la parole de Dieu, du message que Dieu nous a transmis. Non, on doit réaliser que les deux vont ensemble ici. On a le verset 24 qui dit que ce message qui nous a été transmis doit demeurer en nous. Et on a le verset 27 qui nous dit que le Saint-Esprit, cette onction du Saint-Esprit, demeure en nous. Les deux vont ensemble, ils n'agissent pas de manière contradictoire. Ce que cette onction du Saint-Esprit fait, c'est justement leur permettre de comprendre la vérité, le message par rapport à Jésus. Si on parle de la parole, on a besoin de l'Esprit pour nous aider à comprendre la parole. C'est pour ça qu'on prie généralement avant la prédication, avant d'enseigner, avant d'écouter la parole, parce qu'on a besoin de l'œuvre de l'Esprit pour nous aider à comprendre la parole. Et si on parle de l'Esprit, on doit parler de la parole, parce que c'est son rôle de nous illuminer, nous éclairer pour comprendre la parole. Et si on doit affirmer ces choses avec force, et en guise de conclusion, c'est parce que là aussi, l'enjeu est important. Comme on l'a vu, si on refuse de rester attaché à cette vérité, on perd tout, le Fils et le Père. Mais si on reste attaché à ce message, alors on demeure dans le Fils et dans le Père. On est en communion, en fait, comme on l'a vu au tout début de la lettre de Jean, dans chapitre 1, verset 3, avec Dieu lui-même. Et regardez la promesse qui nous est faite. On n'a pas vu ce verset encore, on va terminer ici. Verset 25. Voici la promesse qui nous a faite, la vie éternelle. Les faux enseignants se privent du Père et se privent du Fils. Et ceux qui les écoutent courent le même danger. Mais ceux qui s'attachent au vrai évangile, ceux qui s'attachent à la vérité à laquelle l'Esprit leur a ouvert les yeux, ils ont le Fils et ils ont le Père. Ils ont la vie éternelle. Voilà ce que Dieu nous a donné par grâce. Le pardon des péchés à cause de Jésus, du nom de Jésus. La vie éternelle avec lui. La fin de toute souffrance. La fin du combat. La fin de toute lutte. La joie éternelle dans sa présence pour toujours. Notre âme qui est pleinement satisfaite alors qu'on trouvera notre bonheur suprême en Dieu. Toutes ces choses, c'est pas des choses qu'on a acquises, mais ce sont des choses que Dieu nous a données par grâce. Et si c'est lui qui nous les a données, on peut avoir confiance qu'il ne va pas nous les reprendre. Alors voilà de quoi nous encourager dans cette dernière heure. Malgré les luttes, malgré les défis, malgré les combats, voilà les vérités vers lesquels on veut regarder. Et on veut se rappeler, comme on va le chanter dans un instant, que de tout temps et pour l'éternité, Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Prions pour terminer.
Oui, notre Dieu nous